Chroniqueur international, David Chabot est en studio avec nous. Si vous avez des questions pour lui par rapport à l'actualité internationale, ce qui touche la guerre en Iran entre Israël, les États-Unis et l'Iran, ben c'est le, par texto, 88-971-1021. Salut David Chabot, comment ça va?
Bonjour!
Ça bouge! Trump qui vient d'ordonner le report des frappes en Iran. Est-ce qu'on serait sur le point d'avoir une entente?
J'ai bien hâte de voir, parce que sincèrement, ça s'enlignait pas pour ça. Je trouve que l'Iran joue très, très, très bien ses cartes, parce que là, ils n'ont plus de bateaux, ils n'ont plus d'avions, ils n'ont plus grand-chose pour s'amuser, en fait.
Ils font juste menacer le détroit d'Ormuz.
La simple menace, puis un missile de temps en temps qui part d'un endroit qui n'est pas connu ni prévu, est suffisant, en fait, pour mettre la planète au complet ses genoux. Donc, ils jouent très bien leurs cartes. Là, c'est sûr que...
As-tu l'impression que la pression de l'interne aux États-Unis concernant l'inflation qui grimpe, ça commence à stresser un peu l'administration Trump?
Bien, je pense qu'ils pensaient faire une guerre éclair. Finalement, ça n'a pas éclairé grand-chose. Donc là, ils sont un peu en mode, comment on peut bien sortir de là? Donc là, oui, à l'interne, c'est sûr qu'il y a de la pression parce que le baril de pétrole, là, ce matin, il y a eu une chute d'environ 10-11% depuis l'ouverture des marchés. En fait, ça a ouvert hier soir, mais en tout cas, depuis ce temps-là. Pourquoi? Ben, il y a un espoir que ça se stabilise. On se dit, bon, à un moment donné, la guerre ne peut pas durer pendant 6 ans. Fait que là, c'est des contrats qui se négociaient à l'avance. On en avait parlé ensemble. Donc là, il y a quand même des indicateurs positifs par rapport au discours politique. Par contre, gardons en tête que Donald Trump nous a dit 4 fois que la guerre était sur le bord de finir, puis c'est pas vrai partout. Et en parallèle, ben, c'est pas vrai partout. Ça dépend de la volonté, mais tu as Israël qui nous dit non, c'est un conflit qui va durer encore plusieurs semaines, voire des mois. Puis on sait que, en tout cas, on présume fortement, selon les reportings qu'on a, que c'est Israël qui est le grand moteur derrière tout ça. Puis sans dire que les États-Unis sont des idiots contents qui font juste suivre la parade, c'est pas vrai. Mais ils ont quand même, ils n'ont pas 100% le leadership de ce qui se passe là-bas. Puis ils veulent pas non plus sortir du conflit puis qu'Israël s'en occupe tout seul. Donc là, c'est quand la fin de ça, c'est dur à dire.
Les alliés, eux, là-dedans, qui ont été très froids sur cette intervention-là, du bout des lèvres vendredi, qui ont dit « Ouais, on pourrait peut-être venir aider à réouvrir le détroit d'Ormuz. Mm-hmm. » Mais dans le fond, eux aussi, j'ai l'impression que c'est une certaine pression qu'ils mettent sur Trump.
Ben, en fait, eux, ils ont le beau jeu, parce que le Canada fait partie de ça. Hey, règle ton conflit, là, arrête de tirer des missiles, puis nous autres, on verra pour la suite si on embarque pour sécuriser ce secteur-là. Donc là, est-ce que c'est une pression qui est mise? Je pense que le beau Donald est très fâché de la situation parce qu'il a commencé ça tout seul en disant « pas besoin de vous autres ». Finalement, il aurait peut-être eu besoin d'eux autres. Puis ils ont dit « hey man, ça me tente pas tant que ça ». Puis là, t'arrives à la fin de la patente. Puis là, mettons, les alliés, on va appeler ça comme ça, le Canada puis les puissances européennes disent « ouais, ben une fois que c'est réglé, là, je viendrai peut-être lever le trophée avec toi ». Tu sais. Fait que c'est sûr que Donald est fâché de ça. Est-ce que c'est une pression? Je ne pense pas directement par l'intervention militaire. Par contre, c'est sûr qu'il se fait appeler à tous les jours en disant « Dude, qu'est-ce que tu fais? » Parce que ce qui se passe dans Hormuz en ce moment, ça a un impact à travers toute la planète. Je parlais du baril de pétrole il y a quelques minutes. Tout le monde paye du pétrole. Tout le monde achète de l'énergie. C'est critique, dans le fond, ce qui se passe. Parce que si demain matin, l'Iran dit « Non, nous autres, tu ne sais pas d'où ça part puis comment on va le faire, mais il n'y a aucun bateau qui va passer à travers le détroit en vie », c'est la fin du monde, là, dans le sens que 20% du pétrole mondial qui passe par là, c'est gros.
T'sais, hier, il disait « Si l'Iran ne rouvre pas totalement sans aucune menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront les différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. » Puis là, dans les dernières minutes, c'est « Oh! Breaking news! Attendez! » Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Et ce qu'on me dit, selon certains sites là, qui sont crédibles, c'est que l'Iran dément toute négociation avec Donald Trump actuellement.
Ouais, c'est dur d'avoir la vérité dans tout ça. Je trouve que c'est une erreur de menacer d'attaquer des centrales électriques comme ça parce que à qui ça fait mal, c'est pas au régime, c'est pas à la tête dirigeante que tu veux faire tomber, c'est à la population iranienne. Dans le passé, puis là, je vous parle pas d'il y a 6 mois, mais dans l'histoire, mettons, des relations entre l'Iran et les États-Unis, souvent, les États-Unis ont démontré une volonté d'agir en Iran, de frapper, puis la population, c'est comme tiédie à cette idée-là, je parle de la population iranienne, parce qu'ils se sont dit « Hey, là, l'ingérence américaine, depuis toute l'histoire du Shah d'Iran dans les années 70, puis la révolution iranienne en 79, la population iranienne est quand même assez sensible à son indépendance. » Donc là, j'en reviens à la frappe sur les infrastructures. Tu sais, imagine demain matin, là, ça se peut pas, là, mais en tout cas, ça se peut, mais le Canada est en conflit, Puis là, l'attaquant, on va dire la Russie pour dire de quoi, nous dit « Je vais frapper sur l'eau potable, sur l'électricité, sur ci, sur ça. » Notre réaction comme population, c'est quoi? C'est de dire « Hey, on se fait attaquer par un ennemi externe, je vais me virer vers le régime qui va me protéger. » Puis là, c'est ça que l'Iran peut faire en ce moment. De dire « Les États-Unis vont frapper les centrales électriques qui attaquent la population civile. » Ben, les civils, ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers le régime pour se protéger. Donc là, ça va être contre-productif, dans le fond, de faire ça. Parce que la population que tu veux rallier à ta cause pour faire tomber le régime, ben, finalement, va peut-être se virer contre toi en disant, ben, finalement, c'est le régime qui a raison, puis on doit résister à l'envahisseur.
Mais est-ce que l'arsenal iranien a été détruit dans son entièreté pour qu'on en soit rendu à viser des centrales électriques qui fournissent en électricité les Iraniens?
Ben, ce qu'on voit, là, ce qu'on présume, c'est que les vrais cibles militaires de qualité, il n'y en a plus. Parce que, comme je disais tantôt, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bases aériennes, il n'y a plus de navets ou très peu. Donc là, qu'est-ce qui reste à frapper? C'est des sites de lancement de missiles puis de drones Shahed. Puis ces sites-là sont très mobiles, sont très faciles à camoufler. Puis on s'était parlé de la stratégie de la mosaïque, là, dans le sens que, normalement, le commandement militaire, c'est unifié. Il y a une personne qui décide le commandant, puis là, ça se sépare dans la hiérarchie. On a vu ça mille fois. Mais dans le cas de l'Iran, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir central a dit « Je sais pas si demain matin, je vais encore respirer. » Fait que toutes les espèces de franchises régionales, là, tous les bataillons, les régiments, les ci, les ça, vous êtes 100% autonome. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, ça veut dire que toi, Jeff, t'as des missiles chez vous à Beauport. Là. T'es pas à Beauport, en tout cas, peu importe, mais en tout cas, je ne sais plus ce que tu restes, mais peu importe.
T'es à Beauport.
Mettons tu restes à Beauport. T'as des missiles dans ta cour. Moi, je ne sais plus que si t'en as encore ou pas. Puis un bon matin, tu te lèves et tu te dis « Hey, c'est-tu quoi? Moi, j'attaque Lévis, mettons. » Puis je suis pas au courant, puis bang, le missile tombe. Ben là, ça, fois des centaines de sites de lancement séparés, fait en sorte que je sais même pas si le régime iranien a le contrôle sur sa propre armée en ce moment.
Donc, ce chaos-là est vraiment problématique pour les États-Unis et Israël?
Oui, parce que tu peux pas dire « OK, j'ai fait le ménage. OK, j'ai fait le tour.
Ouais. »
Quand t'arrives, puis ben, d'abord, quand t'es pas physiquement sur place, on s'en parle souvent d'avoir des bottes sur le sol, là, le « boots on the ground », si t'es pas là, tu peux pas le vérifier toi-même. Fait que là, c'est ce que les satellites vont t'indiquer. Mais là, c'est facile de camoufler.
Fait qu'il peut avoir une petite armée dormante à certains endroits qui attendent d'avoir de l'information, puis qui en ont pas parce que les grosses têtes dirigeantes se sont faites fesser. Puis là, ils disent « OK, moi, je vais peser sur le piton aujourd'hui. »
Ouais, parce que c'est juste la possibilité qu'il y ait ça qui est importante. Parce que c'est comme si je te mets 10 verres d'eau sur la table, puis je te dis « Il y en a un là-dedans que j'ai mis une goutte de pipi, puis le reste, c'est tout de l'eau propre. » Est-ce que tu vas prendre ça en toute
J'annonce que je meurs de soif.
Ben, c'est ça. Mm. Fait que là, bon, peut-être que mon analogie est pas très bonne, là. J'ai essayé d'inventer de quoi sur le fly, mais... c'est un peu ça le problème, c'est que tu le sais pas qu'est-ce qui reste, quand est-ce que ça va sortir de quoi. Fait que, il s'agit qu'il y ait un seul missile à une place qui est encore vrai, qui est encore physiquement existant. Puis là, il y a un pétrolier américain ou peu importe qui passe dans le détroit, il reçoit un missile sur la poire, puis là, c'est fini. Là. Tout le monde a la peur. Là. C'est arrivé dans les dernières semaines qu'il y a des bateaux qui se sont fait frapper par des drones puis des missiles. Puis c'est ça qui a mis tout le monde sur les nerfs. Fait que là, si Donald Trump dit « Tout est beau, c'est ouvert, vous pouvez circuler librement », puis le lendemain,
paf,
un missile sur la poire, c'est vraiment pas bon pour personne. Là.
OK, Cuba est en train de crever. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, on se rappelle que l'initiation de la crise, c'est quand Donald Trump est allé chercher Nicolas Maduro au Venezuela. Ils ont dit qu'il n'y a plus une goutte de pétrole vénézuélien qui s'en vont à Cuba, ce qui est vraiment problématique parce que c'était la source principale d'énergie, ouais, là-dedans.
Puis Cuba se nourrissait en pétrole du Venezuela puis des Russes.
Oui, à pas cher. Donc là, c'était comme une espèce de subvention au régime en place. Là, en parallèle de ça, socialement, ça va pas si bien que ça à Cuba depuis longtemps. Là, en ce moment, il y avait une espèce de libération, si on veut, du libéralisme économique qui se passait. Donc, il y avait des petits commerçants qui commençaient à émerger, qui n'étaient pas contrôlés par l'État. Mais l'État lui-même avait de la misère à donner ses services. Les gens se présentent plus vraiment au travail parce qu'ils ont de la misère à se faire payer. Donc, sur place aussi, en parallèle de l'histoire du Venezuela, ça allait pas super bien. Là, c'est rendu que les centrales électriques ont de la misère à être fiables parce que c'est des vieilles guenilles là, des années 80 qui sont mal entretenues parce que le régime manquait d'argent pour entretenir ses infrastructures. Tiens donc, ça me rappelle un autre endroit qu'on connaît très bien. Tout ça pour dire que là, ça finit qu'il manque...
On est le Cuba du Nord, je l'ai toujours dit.
Ben, écoute, dans ce cas-ci, j'ai de la misère à te contredire. Donc là, ça finit que les centrales électriques arrêtent de fonctionner. Fait que là, imagine ta vie, on se ramène à Jeff à Beauport, tu te lèves le matin, t'ouvres la switch, il n'y a pas d'électricité, puis il s'est rien passé. Là. Je comprends que quand il y a un peu de vent puis du verglas, ça peut faire de quoi, mais c'est un beau matin de juillet, puis boum, t'as pas d'électricité. Pourquoi? Ah, ben vous savez, les équipements, la misère, entretien, les pièces, les recharges, l'embargo américain. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc là, le régime a beaucoup de difficultés à passer par-dessus l'embargo américain parce que tous les autres pays se sont fait dire « si vous faites des échanges économiques non autorisés, là, comprenons-nous bien, avec Cuba, ben moi, je vais vous mettre des tarifs ». Donc, les États-Unis, Donald Trump, ont pris la menace des tarifs envers la planète au complet pour dire « vous ne ferez pas d'échanges avec Cuba ». Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a rien qui rentre, puis localement, ils sont maganés, les infrastructures sont scrap, puis il n'y avait pas tant de réserves que ça en termes d'énergie, puis en termes de ressources, puis tout ça, parce que l'île de Cuba n'est pas autonome dans grand-chose. Ils font de la canne à sucre puis du tabac, mais le reste rentre pas mal de l'extérieur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tout est ouvert. Pendant un moment, je pensais que les États-Unis allaient faire une espèce d'opération Maduro, ou même littéralement envahir l'île. Mais là, avec ce qui se passe en Iran... Donald Trump n'a plus tant de capital politique que ça pour faire des interventions ou des aventures militaires. Parce que là, règle ton Iran, puis on verra pour le reste. Puis la guerre en Iran est très impopulaire aux États-Unis, incluant chez les républicains. Donc là, est-ce que la prochaine étape, c'est d'adoucir, si on veut, pour que Cuba ne tombe pas dans une crise humanitaire phénoménale? Est-ce que la prochaine étape, c'est d'avoir vraiment une vraie négociation pour essayer de faire lever l'embargo historique des États-Unis sur Cuba? C'est dur à dire parce que c'est comme un peu, aléatoire comment ça se passe envers Cuba, de la part des États-Unis, puis envers l'Iran aussi, d'une heure à l'autre. Là.
David Jabot, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, boys. Merci
non, beaucoup, on se reparle mercredi. Il remplace Denis Gravel dans le Pit Stop.
C'est vrai, il remplace yes. Denis. Il a mérité son poste.
Ah oui, la semaine de relâche, il a livré une bonne performance. Ouais. Donc, on le rappelle des mineurs encore une fois.
Il a été recruté, puis là, il a signé le contrat.
Exactement, il fait partie du grand club.
Bon, puis qu'est-ce que tu fais d'avoir de l'argent dans les poches à cette heure?
Écoute, je sais pas ce que je vais faire avec tous ces dollars.
Ces dollars.
À mercredi.
Un bouche-trou de qualité.
Et voilà, ça. On est très heureux de t'avoir.
C'est toi qui le dis. Merci.
Bye-bye. Pour nous informer de ce qui se passe dans la